L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Daïdré, votre libraire de poche. Bienvenue dans L'Épluche Livre, votre émission qui cuisine et mijote les livres et leur actualité.
T'aimes les gâteaux, toi ?
Ah oui, mais uniquement les gros.
Les gros gâteaux.
Le G.
Gaston goûte un gâteau garni de grains de groseille. Gaston se gave trop. Gaston sera très gras et gros.
Comment se fabrique un livre ? Se fabrique-t-il tout seul, d'ailleurs ? On imagine facilement, pour un roman par exemple, un auteur, une autrice, un peu pâle, poussiéreux presque, derrière son bureau, une plume d'oie à la main, et voilà, le livre est fait. Alors, attention spoiler, cette image est un mythe. Et nous allons vous transmettre aujourd'hui la vraie recette d'un livre. Du point de vue de l'éditeur, voilà. Ou plutôt de l'éditrice. Car nous accueillons aujourd'hui, en direct de Paris, Louise Grana. Bonjour Louise.
Bonjour Désirée, merci beaucoup pour votre invitation.
Mais avec plaisir, merci à vous d'avoir répondu présente. Vous êtes éditrice donc, pardon. Mais qu'est-ce que ça signifie être l'éditrice d'un livre ?
Alors, vaste question. Je suis éditrice depuis quelques années maintenant et j'ai même la chance d'être désormais responsable d'édition dans une petite structure donc publique avec ses particularités. Et éditer un livre, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Le but final de l'éditeur, c'est tout de même d'avoir dans ses mains l'objet livre que l'on va présenter au libraire et au lecteur. Mais ensuite, il y a vraiment énormément de façons d'éditer un livre.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier ? Quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, il est somme toute assez classique pour le milieu de l'édition. Je suis originaire de Nîmes. J'ai eu la chance de faire des études dans mon lycée d'origine, au lycée Alphonse Daudet.
Oui.
Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris après en fait 3 années de classe préparatoire littéraire, directement en master. Là, j'ai étudié d'abord à la Sorbonne, puis à la Sorbonne Nouvelle, en ayant quand même quelques doutes sur le métier que je voulais exercer, puisque pour moi, l'édition n'était pas une évidence. Je viens d'un baccalauréat économique et social. J'avais certes des facilités pour les matières qu'on dit littéraires. J'étais lectrice aussi depuis mon enfance. J'ai eu l'occasion de beaucoup fréquenter la bibliothèque du Carré d'Art à Nîmes. Mais au tout départ, j'aurais voulu exercer un métier dans le management culturel.
D'accord.
Et donc faire une école de commerce. Ce qui était un peu étrange parce que finalement, je n'avais pas vraiment d'idée très précise de ce que voulait dire et signifier le management culturel. Et finalement, j'ai découvert le métier d'éditeur, d'éditrice à l'occasion d'un premier stage lors de mon année de master d'édition à la Sorbonne. Il fallait effectuer un stage de 6 mois et là, j'ai eu la chance d'être prise chez Actes Sud, donc le grand groupe, le groupe fameux qui est en dehors de Paris.
Oui, mais oui, parce que
Arles.
On entend un parcours d'éditrice quand même, finalement c'est très parisien. Est-ce qu'on est éditeur qu'à Paris ?
Non, je ne pense pas. Et même si effectivement le milieu de l'édition s'est concentré à Paris depuis toujours, on a quand même la chance en France d'avoir des structures un peu partout sur le territoire. parfois plus confidentielle, mais avec effectivement ce groupe Axe Sud qui est quand même qui a acquis une certaine notoriété ces dernières années. Ils ont eu notamment plusieurs prix Goncourt. Donc voilà. Donc non, je pense qu'on peut être éditeur absolument partout.
Très bien. Et quelle est votre maison actuellement? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par maison d'édition? Vous dormez sur place? Comment ça se passe dans une maison d'édition?
Alors c'est vrai que c'est un peu particulier ce terme de maison d'édition. Pour ma part, je suis arrivée il y a déjà 3 ans aux éditions Panthéon Assas, donc qui sont en fait les presses universitaires de l'université Paris Panthéon Assas, qui était anciennement Paris 2, donc à Paris, c'est vraiment l'université spécialiste sur le droit, même s'il y a aussi d'autres disciplines qui sont enseignées, par exemple l'économie-gestion ou l'information-communication. L'université accueille par exemple l'IFP, l'Institut français de presse, depuis longtemps. Donc voilà, ça c'est la maison d'édition pour laquelle je travaille. Ensuite, quand on dit maison d'édition, effectivement, on est toujours aux frontières, j'ai l'impression, dans ce métier, entre l'intime et l'entreprise. Et donc, on a à la fois ce rapport très privilégié avec des auteurs qui nous soumettent leurs manuscrits. Donc, il y a quand même quelque chose d'évidemment peut-être de chaleureux et un rapport plus intimiste qui se crée avec les écrivains. Et en parallèle, effectivement, une maison d'édition, pourquoi? Eh bien parce que quand même, notre but premier, c'est de faire des livres, de faire en sorte que des livres existent, et puis de vendre ces livres, de les commercialiser, de les apporter jusqu'au lecteur.
C'est ça. Donc, quand vous dites faire des livres, on appelle ça, si je ne me trompe pas, c'est publier. Donc, c'est-à-dire rendre public, c'est grâce à vous que les livres sont couchés sur le papier, finalement?
Oui.
Voilà. Et quel métier y a-t-il dans une maison d'édition? Est-ce qu'on peut être éditeur tout seul dans sa maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va travailler plus à relire le livre? Quelqu'un qui va travailler plus avec l'imprimeur? Comment ça se passe concrètement comme organisation?
Alors, je crois qu'il y a autant de façons de fonctionner que d'éditeurs et de maisons d'édition. Rien n'est totalement figé et les rôles de chacun se distribuent vraiment selon la taille de la maison d'édition. Il y a des maisons d'édition indépendantes, intimistes, avec des toutes petites équipes, là où chez un grand groupe comme Hachette ou Editis, on a parfois des fonctions transverses et des services en commun.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme métier dans une maison d'édition? Il y a l'éditeur qui assume vraiment le projet en entier et qui le suit du début à la fin, de A à Z. Mais il y a aussi effectivement un service de marketing qui va s'occuper de faire parler du livre, de le rendre vraiment commercial entre guillemets et qui puisse vraiment être reconnaissable pour tous. Il y a un service communication qui s'occupe vraiment de parler du livre au moment de sa parution et puis même après. Il peut y avoir un service évidemment de fabrication. Alors là, on est vraiment en lien très direct avec les éditeurs pour s'occuper vraiment de toute la partie relation avec l'imprimeur, c'est-à-dire le choix du papier, vraiment toutes les contraintes liées à la fabrication vraiment physique du livre.
Et oui, parce que le livre est un objet physique, reste un objet physique.
Complètement, oui. Oui, on est vraiment dans... Alors en France, on a longtemps parlé du fait que peut-être l'édition numérique allait vraiment supplanter le livre papier. On se rend compte aujourd'hui que même si elle existe en parallèle du livre papier, le livre papier, l'objet a vraiment encore son importance et revêt aussi, j'ai l'impression, une dimension affective très forte pour les lecteurs qui aiment acheter des livres en librairie.
D'accord. Donc vraiment, le métier d'éditeur, c'est un métier clé. Donc bien sûr, pour avoir un livre, pour pouvoir lire un livre, quel qu'il soit, que ce soit un livre de droit, un livre, un roman, un essai quelconque, donc il vous faut un auteur, bien sûr, et absolument le regard et le travail d'éditeur, donc un travail de relecture du texte, de réaménagement du texte en collaboration avec l'auteur, je suppose.
Exactement. Alors là aussi, la relation de l'éditeur avec son auteur, elle peut être vraiment assez différente d'une maison à l'autre. Mais effectivement, l'éditeur est un espèce de passeur. Mmh. Il est vraiment là pour rendre le texte le plus clair possible, le plus limpide possible pour le lecteur. Et donc, il va vraiment le relire en profondeur et assurer ce qu'on appelle une relecture orthotypographique. Donc là, on est un peu dans le jargon de l'édition, mais il s'agit d'une relecture absolument essentielle, puisque tout manuscrit, quel qu'il soit, que l'on soit vraiment dans un livre de fiction, dans un essai, même dans des presses universitaires, on a toujours besoin du regard extérieur de l'éditeur qui va permettre de bien vérifier que la structure du livre est cohérente, de vérifier effectivement l'orthographe vraiment ligne à ligne, et puis parfois de proposer certaines améliorations à l'auteur.
D'accord. Et publier un livre, ça engage sur le plan légal quand même. Donc,
oui.
Comment ça se passe? On entend parler, par exemple, de livres parfois qui défient un peu la chronique, par exemple, le consentement, la famille agrandée, enfin bon, c'est ces sujets qui me viennent en tête, mais il peut y en avoir plein d'autres, ou de livres qui paraissent en librairie, c'est très rigolo pour les lecteurs qui nous écoutent. Parfois, en tant que libraire, quand on travaille donc, notre catalogue de nouveautés à paraître, donc 3 mois à l'avance, on voit des livres parus sous X. Voilà, donc le livre s'intitule X, on a la maison d'édition, l'auteur c'est X, donc on sait que c'est un livre qui fera polémique. On sait que c'est un livre dont on cache un petit peu la parution parce que il va y avoir tout un engouement ou voilà, quelque chose de médiatique autour, que ce soit dans le positif ou le négatif. Quel est le rôle de l'éditeur dans cet engagement de publier le livre?
Alors le rôle de l'éditeur, c'est effectivement de créer ce qu'on appelle une ligne éditoriale et de construire son catalogue parution après parution. Donc effectivement, le choix d'un texte, c'est toujours assez délicat, c'est un choix fort qui engage vraiment l'éditeur, puisqu'ensuite on permet effectivement à tout un tas de lecteurs d'avoir accès à un texte. Il y a une certaine responsabilité effectivement à faire exister des livres qui pourraient défier la chronique, qui pourraient amener sur le devant de la société des sujets peut-être tabous, qui ne sont pas encore assez traités. Donc effectivement, il y a tout ce côté-là. Moi, dans mon parcours, j'ai plutôt travaillé en édition scolaire, parascolaire et aujourd'hui universitaire. Donc j'ai toujours eu à cœur, et dans les maisons dans lesquelles j'ai travaillé, le côté, la rigueur scientifique au moment de publier un ouvrage est vraiment très importante. Et effectivement, il s'agit d'avoir toujours un regard assez acéré sur le texte que l'on va publier pour fournir au lecteur un livre qui soit le plus qualitatif possible, d'une part, et puis qui ensuite, effectivement, peut-être prenne à cœur des sujets de société qui ne sont pas assez mis sur le devant de la scène. Voilà, et je pense qu'effectivement, après, quand on regarde historiquement, l'édition a toujours mis sur le devant de la scène des livres qui pouvaient parfois attiser la convoitise, la jalousie, les scandales. On peut penser au procès pour les fleurs du mal de Baudelaire.
Enfin, oui,
voilà, l'histoire éditoriale est émaillée et chaque année aussi on voit avec les prix littéraires et la rentrée littéraire de livres qui peuvent faire parler d'eux et être vraiment des déclencheurs parfois de débats sur certains sujets de société, effectivement. On l'a vu notamment récemment avec tout ce qui est effectivement consentement, la question des violences sexuelles intrafamiliales ou ailleurs.
Oui, le neige, le triste tigre de Neige Sino chez POL notamment, qui est vraiment le marqueur d'un avant et d'un après. Dans l'édition et dans l'écriture sur ce sujet. Donc la POL avait vraiment pris un risque et continue à prendre des risques donc, pour ce titre-là. Et c'est vrai qu'on comprend mieux, on comprend mieux l'importance et l'enjeu premier de l'éditeur et de la maison d'édition dans la recette d'un livre. Je vous propose maintenant une petite pause musicale. Nous allons écouter une musique choisie par notre invité. Donc il s'agit de Conversation de Victor Mécanique.
Thank you. catch my heart. Wait and see. You're just another soul in here waiting for me. Oh baby, I need to feel your love at once. Yeah baby, would you grab my love at once? Conversations, sweet connections. Loving you, loving me, love is new, love is free. Loving you, loving me, love is new, love is free. Come on baby, get down now. And set me free. Come on baby, get down now. And let me be. And if you make my soul a bonfire, well I'm gonna pay you back with my dynamite. Oh yeah, I said baby, I need to feel your love at once. Yeah baby, would you grab my love at once? Conversations, sweet connections. Loving you, loving me, love is new, love is free. Loving you, loving me, love is new, love is free. Loving you, loving me, love is new, love is free. Loving you, loving me, love is new, love. My heart, wait and see. You're just another soul in here waiting for me. Oh baby, I need to feel your love at once. Yeah baby, would you grab my love at once? Conversations, sweet connections. Conversations, connections. Loving you, loving me, love is new, love is free. Loving you, loving me, love is new, love is free. Come on baby, loving get you, down loving me.
Alors, c'était les conversations de Victor Mécanique. Nous sommes en discussion avec Louise Granat, responsable d'édition aux éditions Panthéon Assas. Louise, merci encore d'être là. Merci d'avoir choisi cette musique qui, je crois, compte pour vous. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ?
Oui, alors c'est simplement un petit clin d'œil à un artiste que j'ai découvert l'an dernier, donc Victor Mécanique, qui est un artiste français et dont j'avais adoré ce titre. J'ai eu l'occasion de le voir en concert il y a peu et voilà, je trouve que c'est un titre tout à fait frais pour cette rentrée.
Merci beaucoup pour ce partage et cette belle découverte. Pour continuer un petit peu donc sur le métier d'éditeur et sur l'importance de ce métier-là, donc on a vu en première partie d'émission ce qui a lieu dans la maison d'édition. Maintenant, quels sont, à votre regard, à votre avis, les enjeux pour le secteur de l'édition aujourd'hui ?
Alors c'est une vaste question,
oui,
là aussi en ayant surtout évolué quand même dans le milieu scolaire, parascolaire, universitaire, je n'aurais pas la prétention de les connaître tous les enjeux aujourd'hui de ce secteur, mais de ce que je vois, donc il y a d'un côté effectivement l'arrivée massive du numérique dans nos vies à tous, qui je pense quand même ont bouleversé les habitudes de lecture et entraînent quand même des mutations assez grandes, je pense, dans le secteur de l'édition en général, qui cherche aussi à s'adapter aux nouvelles façons de lire. Aujourd'hui, on a peut-être moins de temps à consacrer à la lecture et c'est une donnée qui peut, je pense, influencer les maisons d'édition dans les choix de certains livres, dans vraiment les choix des livres qui sont publiés. Ensuite, je pense qu'au niveau de la communication autour des livres, il y a vraiment énormément de changements ces dernières années, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. On le voit, et ça n'est pas que dans le secteur de l'édition, mais pour faire exister un livre, pour l'amener jusqu'au lecteur, les canaux de communication, les canaux de publicité du livre sont quand même en train d'évoluer. On le voit avec des réseaux sociaux comme Instagram ou même TikTok. On parle aujourd'hui, je crois, de BookTok, de BookTube,
de Bookstagram.
Voilà. Donc effectivement, je pense que le grand enjeu aujourd'hui dans la diversité de ce qui est proposé par le secteur en règle générale, puisque on a au sein des grands groupes tout un tas de maisons d'édition et même de labels, de marques vraiment qui proposent beaucoup de nouveautés chaque année. On l'a vu là même avec la rentrée littéraire, à plus de 400 romans qui sont publiés. Comment faire vraiment exister ces livres? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment tout un tas de choses nouvelles qui apparaissent, et notamment la façon dont on parle des livres, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ou aussi, je pense au fait que les écrivains aujourd'hui s'emparent aussi des réseaux sociaux pour parler de leur lecture.
Tout à fait. On allait y venir aussi, alors peut-être sous un autre angle que celui que vous vouliez aborder. Mais donc, quand on est auteur, on a envie d'être publié, on envoie notre manuscrit à Louise, qui va le relire et s'impliquer, s'engager ou non. Mais parfois, même de plus en plus souvent, moi je le constate au quotidien dans mon métier de libraire, les auteurs sont frustrés. C'est-à-dire que pour eux, ils estiment qu'ils ont envoyé leur livre à 15, 20, 30 maisons, ils ont eu du refus de à peu près tout le monde, ou alors la maison qui veut travailler leur livre veut retravailler le texte et ça ne leur convient pas. Ils se saisissent donc de certains outils et passent outre les maisons d'édition. Voilà, donc ce sont des auteurs qui ont plusieurs casquettes, qui s'improvisent éditeurs, donc on appelle ça de l'auto-édition, et ensuite qui vont faire le travail de ce qu'on appelle se diffuser et distribuer. Donc c'est-à-dire diffuser, c'est faire la publicité, le marketing, et distribuer, c'est faire en sorte que le livre arrive en librairie. Ils vont faire ça tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Louise? Est-ce que vous voyez effectivement émerger ce genre de pratiques? Et comment vous les considérez en tant qu'éditrice?
Alors, c'est une question très intéressante. Je me souviens, lors de mes études, donc il y a déjà quasiment 10 ans, on nous en parlait déjà de l'auto-édition.
Oui, ça commençait à cette époque. C'était pas...
Voilà. Qui était en train d'émerger. Et aujourd'hui, écoutez, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un circuit parallèle à l'édition classique, donc en passant par des maisons d'édition où on sait effectivement que le choix est très compliqué pour les maisons d'édition qui reçoivent souvent énormément de manuscrits, où il y a une contrainte vraiment même de temps en fait passé sur chacun des manuscrits, et puis parfois effectivement on dit quand même que le secteur de l'édition, il y a quand même une sorte d'entre-soi où finalement l'éditeur est aussi souvent un lecteur, finit par connaître des auteurs et finit aussi par parfois publier des auteurs qu'il connaît. La nouveauté, vraiment, l'auteur qui envoie son manuscrit à une maison d'édition pour qu'il soit ensuite lu, qu'il ait une réponse et qu'il soit éventuellement publié, c'est quand même souvent un parcours du combattant du côté des écrivains. Donc effectivement, ce que j'en pense, alors c'est très bien effectivement que l'auto-édition se soit finalement développée, puisque ça permet quand même de pallier un manque pour certains auteurs qui de toute manière tiennent à avoir un objet livre dans les mains et qui effectivement s'improvisent éditeurs, correcteurs, choisissent leur couverture. Alors je crois qu'il existe certains sites pour faire ça de façon un peu avec des gabarits et puis des choses qui permettent de faire un livre assez facilement. Donc voilà, ensuite il y a tout l'enjeu effectivement de la diffusion et de la distribution qui là, je pense, est de toute manière souvent effectivement assuré de façon réellement professionnelle par les maisons d'édition qui travaillent quand même en collaboration étroite avec leurs diffuseurs et leurs distributeurs.
D'accord. Donc vous, ça vous paraît être potentiellement une solution pour des auteurs en manque de reconnaissance ou qui ont vraiment, vraiment envie de publier peut-être quelque chose, pas forcément au niveau national, mais de personnel, c'est ça pour vous, ce système d'auto-édition, ça ne vient pas concurrencer de façon déloyale ou autre les maisons d'édition?
Oui, complètement. Je pense que c'est vraiment un circuit parallèle,
plutôt complémentaire,
qui est assez installé aujourd'hui, plutôt confidentiel, mais qui permet vraiment de faire quand même exister des livres, exister la parole d'un auteur, et qui permettent à certaines personnes de pouvoir auto-distribuer leurs livres autour d'elles dans des proportions plus restreintes, mais avec quand même la satisfaction de voir l'objet livre qui souvent compte pour un écrivain.
Oui, il y a aussi cet affect personnel qui est très important et que visiblement vous n'oubliez pas, les éditeurs. Enfin, vous êtes quand même des personnes très proches en général, humainement, de vos auteurs, vous vous mettez beaucoup à la place d'eux et imaginez le ressenti qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est quand même un travail qui joue beaucoup sur l'humain. Est-ce que, pour terminer cette émission, il y aurait un sujet en tant qu'éditrice qui vous tiendrait à cœur, que vous voulez voir mis un petit peu en avant?
Oui, alors écoutez, on a parlé beaucoup d'édition là dans cette émission et du métier d'éditeur. J'aurais aimé faire un petit topo sur les métiers qui consistent à faire exister aussi les revues à côté des livres. Donc j'ai eu la chance il y a presque 10 ans aussi aujourd'hui de rejoindre un collectif, une association à l'époque qui s'appelle Zone Critique, qui a existé pendant très longtemps de façon gratuite et accessible sur Internet et qui aujourd'hui est en train réellement de se professionnaliser et propose une revue papier depuis quelques temps déjà et qui a pour objet vraiment de traiter un thème à chaque numéro. Et je trouve qu'à côté, en fait, des maisons d'édition qui, la plupart du temps, publient uniquement des ouvrages, tout le côté de la presse papier, les magazines et les revues, c'est aussi un secteur, alors qui aujourd'hui, parfois, peine à vraiment se faire une place au milieu des librairies, mais qui parfois est présente aussi en librairie, sous la forme aussi de MOOC, etc. Mais voilà, pour moi, c'est important aussi de parler de toutes les formes d'édition, et pas seulement des livres, mais aussi des revues et de tout ce qui peut se faire aujourd'hui. Ce secteur-là est quand même assez dynamique. On voit vraiment tout un tas de petites revues qui émergent et qui permettent là aussi de parler souvent de littérature, de mettre en avant des maisons d'édition, de mettre en avant des jeunes auteurs, et ça me paraît très important.
C'est le cas là de Zone Critique, donc c'est une revue littéraire, c'est bien ça?
Voilà, c'est un média aujourd'hui vraiment donc culturel et littéraire, qui s'intéresse autant à la littérature qu'au cinéma, et qui permet de faire de la critique, on va dire, très contemporaine, mais aussi de revenir sur des trajectoires d'auteurs un peu oubliés ou méconnus.
Très bien. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour terminer cette émission. Est-ce que vous auriez, alors je sais que le choix va être terrible, Louise, mais un livre à nous conseiller. Un livre vraiment qui a marqué votre vie et qu'en tant qu'éditrice, vous voulez conseiller à nos auditeurs?
Alors, j'ai fait un choix, on va dire, vraiment de corporation. mais donc, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais pour ceux et celles qui pourraient se demander quelle est vraiment la mission d'un éditeur, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai fait mon premier stage chez Actes Sud. C'est un petit texte qui s'appelle « La sagesse de l'éditeur », qui a été écrit par Hubert Nissen, qui est donc le fondateur des éditions Actes Sud, et qui est une sorte de récit-témoignage qui permet vraiment de comprendre comment on devient éditeur. Alors là, c'est son parcours à lui, évidemment, il y en a tout un tas d'autres qui sont possibles, mais où il met vraiment en avant la dimension de l'éditeur comme passeur d'émotions, comme transmetteur, vraiment, enfin passeur de livres, et comme vraiment passeur d'émotions auprès des lecteurs.
Voilà. Super. Vous pouvez nous rappeler le titre, l'auteur et la maison ?
Oui, donc c'est un texte d'Hubert Nissen qui s'appelle « La sagesse de l'éditeur » et qui a été édité chez L'Œil Neuf Éditions.
Super, je vous remercie Louise. Je vous remercie de nous avoir transmis ces recettes éditoriales. Hein. Donc en effet, l'éditeur fait partie de la recette pour pouvoir avoir votre livre présent en librairie en tant que lecteur ou en tant qu'auteur. Enfin, pour moi, c'est quand même important. Il est temps donc de quitter la cuisine. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs, et merci.
L'épluche livre.
Alors, vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.